Les podcasts de l'UA.
Bonjour. Je vais commencer par vous raconter des histoires. Il est arrivé régulièrement dans vos trafics que vous côtoyez des enfants qui n'ont pas d'initiative ou n'ont pas d'entre-gens, sont retirés sur eux-mêmes. Un exemple que j'ai en tête, c'est une jeune fille de 7 ans, 8 ans, qui vit avec une séparation de ses parents. Elle est divorcée. Et les parents ne s'entendent pas, ils font passer des messages à la petite fille pour le mari, pour la femme. Et ce sont des messages qui ne sont pas des messages que devrait porter une petite fille. On s'est assis à côté d'elle et on lui a posé la question « Qu'est-ce que tu peux faire ?» Et on a constaté que sa souffrance venait du fait qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle était exposée au danger ou à la situation, mais elle ne savait pas comment s'en sortir. Et l'essentiel de notre intervention a consisté à voir avec elle, avec un cadre que je vais vous présenter tout à l'heure, comment sortir de cette situation, comment sortir de l'impuissance. Parce que c'est l'impuissance ressentie et réelle, ou réelle, qui crée le sentiment d'une prison. Ce n'est pas les barreaux de la prison qui font la prison, c'est le sentiment d'être enfermé et de ne pas pouvoir en sortir. Donc, et quand il y a une sorte d'apathie, une difficulté à se projeter, on retrouve ça beaucoup chez les adolescents de cité urbaine, où là, on va leur demander qu'est-ce qu'ils font demain, ils peuvent répondre, mais qu'est-ce qu'ils font après-demain, ils ne peuvent pas répondre. Parce qu'ils ne se projettent plus, ils vivent dans une sorte de nowhere, d'espace sans nom. Cette petite fille s'en est sortie parce qu'elle a trouvé une stratégie qui consiste à réunir ses deux parents et à leur expliquer qu'elle ne voulait plus être le courrier entre eux. Qu'elle avait besoin d'être la petite fille qu'elle était et qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires des adultes. Et qu'elle refusait maintenant de passer des messages. Au-delà de la solution, la petite fille a repris énormément confiance en elle-même. C'est-à-dire qu'elle a découvert qu'en s'affirmant, en faisant l'effort de s'affirmer, elle obtenait un effet sur ses parents. Et donc, le fait d'avoir pu agir avait débloqué la situation. J'en ai plein d'autres histoires que je ne passerai pas, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a, dans la notion de pouvoir d'agir, un élément qui fait qu'on est capable ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème de capacité, je ne me crois pas capable, on me dit que je suis un incapable, que je ne serais pas capable de faire ceci ou cela, que c'est trop ambitieux, on m'emmène mes projets à des choses qui sont immédiatement disponibles mais qui ne me stimulent pas. Les jeunes dans les missions locales se font offrir des postes de travail qui nient d'une certaine manière leur désir d'épanouissement. On leur propose de faire un contrat de 3 mois avec un ébéniste alors qu'ils ne sont pas manuels et qu'ils sont beaucoup intéressés par la musique. Donc on est dans une sorte de démarche de proposition qui ne colle pas, qui ne te touche pas, qui ne convient pas à la personne accompagnée. L'idée d'être capable ensemble, j'ai mis un S entre les deux parce qu'on est capable tout seul, pour commencer, et on devient capable ensemble quand on se regroupe et qu'on essaie de trouver une façon de faire qui convienne pour un objectif commun. Cette notion d'être capable est très importante parce que quand on dit régulièrement dans nos vies quotidiennes qu'on parle et on échange entre nous, qu'on essaie de faire quelque chose, on dit « je ne suis pas capable ». Quand ce sont des petits détails, que ce sont des petits défis, ça ne porte pas trop à conséquences. Mais lorsque je ne suis pas capable d'étudier et de travailler en même temps, quand je ne suis pas capable d'avoir une relation affective saine, je me heurte à un problème. Je sais que je ne suis pas capable et je suis dans l'impuissance. Or, le mouvement naturel de la condition humaine, c'est l'épanouissement. Je vous renvoie à la philosophie, notamment au Conatus. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le Conatus qui dit que toutes choses doivent persévérer dans son être, de Spinoza. Spinoza nous dit tout ce qui est a pour but de croître, de persévérer dans son être. Et c'est ce mouvement-là, il est inné à tous, y compris aux gens bloqués, aux gens qui souffrent, aux gens qui sont dans la rue. Il y a à l'intérieur de nous un désir de persévérer dans son être. Donc d'expansion, d'ouvrir ses ailes, d'ouvrir ses bras, et d'accepter ses expériences. La possibilité d'ouvrir ses ailes, le fait d'être conditionné, de se retrouver coincé dans des contextes qui sont débilitants, ou qui ne donne pas de possibilité de s'épanouir, est une source de souffrance fondamentale. La notion d'être capable de refaire à la capacité, mais au sens où en matière saine, l'entend, la capacité étant la capacité, c'est-à-dire la réunion des conditions structurelles et personnelles qui permettent de passer à l'action. Je vous donne un exemple que j'aime beaucoup, mes collègues de l'Inde. Un gouvernement offre dans une région éloignée une route asphaltée pour se rendre à l'école. L'école est toute neuve, la route est toute neuve, mais les parents ne mettent pas les enfants à l'école. Alors il y a un clash qui se fait, une chicane, comme on dit au Québec. Chacun se reproche le fait de ne pas être volontaire, de ne pas vouloir aller à l'école. Et en fait, quand on demande aux personnes ce qu'elles veulent obtenir et qu'elles n'ont pas obtenu, c'est des conditions de sécurité pour rouler sur cette route et ne pas faire de mauvaises rencontres. Et envoyer leur fille à l'école sur cette route-là est une menace à la sécurité de l'enfant. Donc on a un beau projet qui a été pensé au niveau structurel, mais qui n'a pas été connecté avec les besoins personnels. Et ça ne se résout qu'à partir du moment où on va répondre à ces demandes. Agir, c'est pas être actif ou s'agiter. Agir, c'est agir sur ce qui est important pour soi. C'est pas agir pour agir, comme on prendrait quelqu'un qui en fait faire du sport, et on lui dit, tu vois, tu as fait du sport pendant un mois, tu as agi sur ta santé. Si le sport n'était pas du tout dans ses objectifs et qu'il n'était pas intéressé par le sport, il n'a pas vraiment agi, il s'est agité. C'est pas non plus être actif. On a tendance à penser que, surtout quand on est un intervenant, qu'il suffit qu'on fasse plein de choses les unes derrière les autres, qu'on s'occupe, qu'on lance plein de fils à la mer, qui finirait bien quand on ramassait quelque chose. Généralement, il revient un désordre. Donc c'est ni être actif ni s'agiter, c'est vraiment agir sur ce qui est important pour soi. Dès le départ, on peut dire que si agir c'est important pour soi, développer le pouvoir d'agir, quand je suis un professionnel ou un intervenant, c'est me mettre en mesure d'accompagner la personne sur ce qui est important pour elle, compte tenu de mon mandat spécifique. Si elle dit qu'elle veut gagner 1 million, vous n'êtes pas forcément habilité à lui faire gagner 1 million. Mais si elle veut gagner 1 million, quelle est la première étape proximale qu'elle doit faire et comment on va avancer vers ce gain million? Alors ça remet en question toutes les approches en orientation notamment, où on décourage les jeunes à rêver, on leur explique qu'il faut qu'ils aient des attentes en fonction de leurs résultats, et qu'ils n'ont aucune chance de passer dans la discipline qu'ils souhaitent. Et en fait, on casse ce mouvement d'épanouissement. Et ce n'est pas important que le but soit réaliste. Ce qui est important, c'est que le but soit projeté. Il sera toujours temps, en chemin, de faire des bifurcations et puis de trouver une solution plus adaptée à sa situation. Mais le droit de rêver, l'ambition, c'est le moteur de l'action. Et nos interventions ont cet inconvénient de souvent essayer de faire avec ce qu'on a. Je reçois un enfant dans un cabinet de médecin, et puis l'enfant veut une forme de prise en charge personnelle. Il est timide, il ne veut pas voir ses parents dans le bureau. Même si la procédure impose d'avoir les parents dans le bureau, il faut trouver une solution dans laquelle l'enfant va pouvoir s'exprimer. Donc le pouvoir d'agir, c'est vraiment le pouvoir d'avoir la possibilité d'agir sur ce qui est important pour soi. Et on va voir que sur ce qui est important pour soi, c'est pas forcément ce qui est important pour le professionnel, ni pour les personnes, les proches. Alors on rentre pas dans un conflit, mais on intègre l'ensemble des enjeux du personnage et on trouve une solution acceptable. Pour pouvoir faire ça, il faut faire une analyse assez poussée, qui est partie de Ricoeur, de Paul Ricoeur, qui nous dit « La souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, diminuée par la douleur mentale. Bon, ces deux douleurs-là existent. Hein. Mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir faire ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi. Cette destruction du capacité d'agir, du pouvoir faire ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi, c'est vraiment le frein qui bloque les situations. Que ce soit un itinérant, un psychologue, un responsable de formation, un intervenant quelconque, s'il est dans l'impression qu'il a une incapacité d'agir, il va le ressentir comme une atteinte à son intégrité. L'intégrité, ça veut dire être soi au complet, agir avec toutes ses capacités et ses compétences. Cette notion-là est importante parce qu'elle nous montre que les adultes comme les enfants ont besoin d'agir, d'entrer en rapport avec le monde, de manière à ce que ce monde leur envoie une rétroaction positive. Que ce soit l'enfant qui essaie d'atteindre son hochet et qui développe des stratégies qui finit par l'attraper, ou le professionnel, chef de service, qui réussit à développer des rencontres professionnelles amicales. Chaque fois qu'on tente d'intervenir pour changer les choses, le succès est un renforcement. Et c'est un renforcement qui nous redonne l'intégrité de soi-même, c'est-à-dire on a l'impression d'agir de façon concrète. Si on part de cette hypothèse que la capacité d'agir et de pouvoir faire ressentir comme une atteinte à l'intégrité de soi est réelle, alors tous les gens que l'on veut aider, on doit passer par le développement de leur pouvoir d'agir. Et ça mène à la question, au fond, qu'est-ce qu'on fait quand on veut aider? Quand on a des institutions dans une société occidentale, on prévoit de l'aide à la personne. C'est souvent de l'aide prescrite, c'est-à-dire de l'aide que développe des penseurs, des gestionnaires, des administrateurs, pour répondre à un problème qui se pose. Mais la façon dont ils répondent au problème, c'est selon leur propre conception. Imaginez un ministre de l'Éducation qui a toujours été bon élève, qui doit comprendre le problème des décrocheurs. Il lui manque une information. Alors il a des analyses, il a des données pour réfléchir, mais il lui manque un point de vue. Un point de vue qui est déterminant dans le succès de l'intervention. Un point de vue qui, s'il est absent, prédit l'échec de l'intervention. On va dépenser beaucoup d'argent, et je peux vous dire que j'ai vu des sommes folles investies dans des programmes sociaux très sophistiqués, qui ne correspondaient pas du tout à la demande. Un exemple que j'ai trouvé intéressant, un éducateur voulait s'occuper des sans-abri. Et il trouve un local, trouve de l'argent, se démène comme un bon, installe le local de manière agréable et confortable, et puis il n'y a pas de sans-abri qui viennent. Il y en a qui passent, mais personne ne reste. Son initiative tombe à l'eau. Alors on discute ensemble, et puis il dit, je ne comprends pas, j'ai tout fait, je leur ai donné un local, ils ont du café, etc., pourquoi ils ne viennent pas? Et on a simplement posé la question, leur as-tu demandé leur avis avant de te lancer dans ce projet-là? Et il s'avère qu'un des enjeux de ces sans-domicile fixe était de ne pas se faire coincer dans un endroit précis, parce qu'ils avaient peur des descentes de police, etc. Ils ne se voyaient pas utiliser un local qui était en pleine vitrine dans la rue. Enfin bref, ils n'étaient pas bien dans ce local-là, ils n'étaient pas adéquats. On a dépensé beaucoup d'argent pour monter ce local, il y a eu des gens qui se sont battus pour obtenir ce local, et il s'est avéré dysfonctionnel. Si on était parti du désir, de la volonté des sans-abri, on aurait peut-être trouvé une solution beaucoup plus viable. Agir, c'est pas simplement passer à l'action, c'est également être une façon de s'affirmer. C'est ce que Ricoeur appelle l'attestation de soi. Quand j'agis sur le monde me renvoie un échec ou un succès. Si j'agis sur le monde et que le monde me renvoie un échec, je vais tenter plusieurs fois d'essayer, mais à un moment donné, si j'accumule les échecs, je n'essaierai plus. Ce qui explique, par exemple, que vous avez des gens, des jeunes notamment, qui sont dans une forme d'apathie, dans une sorte de nowhere, où ils ne sont même plus intéressés à essayer quelque chose, à prendre le risque du changement. Ils ramassent leur petite vie comme une peau de chagrin sur un quotidien prévisible, le temps dans les escaliers de la cité, les activités de sport, etc. Mais ne leur demandez pas d'aller au-delà. Ils sont comme recroquevillés sur leur vie. C'est ce que Castel appelle la désaffiliation. Le rôle central de l'action, c'est que c'est un vecteur majeur de reconnaissance. À mes propres yeux, je me reconnais capable d'agir et l'environnement me répond « tu es capable » puisque ce que j'essaie de faire, ça marche. Aux yeux de l'autre, les autres autour de moi me voient capable et comme un enfant qui montre un dessin à sa mère en disant « regarde maman, j'ai fait un beau dessin », on lui renvoie l'information qu'il est capable de dessiner, même si c'est un gribouillis. Et aux yeux du tiers absent, c'est un problème de société. Si vous n'êtes pas actif au niveau de la société, vous êtes dans un statut, on dirait bâtard chez moi, dans un statut non valorisé. Chômeur, sans domicile fixe, ayant droit qui ne réclame pas leurs droits, etc. Donc vous avez une valeur aux yeux de la société si vous êtes actif professionnellement, si vous êtes des contribuables qui rapportent à l'État. Ça produit un sentiment d'efficacité personnelle, je réfère à Bandura, et collective, au niveau de Bandura aussi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avance sur l'environnement et que j'essaie des choses qui marchent, je prends confiance en moi. Et je m'aperçois que je suis capable de faire. Et je vais tenter, comme on est dans la croissance dont on parlait tout à l'heure avec Spinoza, d'en faire un peu plus. C'est-à-dire, si je réussis une fois, je vais réessayer quelque chose d'un peu plus compliqué, un peu plus difficile. À l'inverse, si j'échoue régulièrement, j'aurai beaucoup de mal à réessayer. Ça me permet d'avoir un sentiment d'intégration et d'insertion, c'est-à-dire que je m'aperçois que je suis un autre parmi les autres, soi-même comme un autre, je réfère au livre de Ricoeur, c'est-à-dire que j'ai une estime de moi comparable à celle que me donne le groupe. Je suis intégré, je sais faire des choses, le groupe me reconnaît, les proches me reconnaissent, les institutions me reconnaissent, et je peux continuer à avancer pour faire des choses nouvelles. C'est aussi, sur le plan philosophique, un vecteur de l'être au monde. Chez un bébé, notamment, c'est la distinction soi-non-soi qui joue un rôle. C'est-à-dire où commence mon monde, où j'ai de l'influence, où je peux, par mes comportements, arriver à mes fins. Où commence le monde extérieur, celui qui me donne des challenges, celui qui me résiste, celui pour lequel je veux tenter des choses. C'est important, notamment en génétique, en développement génétique, c'est-à-dire que le rapport de l'enfant se construit dans ses interactions avec le monde, et c'est comme ça qu'il se fait une image de lui-même, dans ce rapport soi-non-soi. C'est à l'avantage de donner une relation concrète. Alors ça, c'est important parce que on a tous appris qu'il fallait parler aux gens qui n'allaient pas bien et les encourager. Mais oui, tu vas être capable, mais si tu vas y arriver, etc. En fait, le pouvoir d'agir, ça s'opère sur le plan concret, dans le pas proximal. C'est-à-dire, on va faire en sorte que la personne fasse un pas qu'elle ne peut pas échouer. Et la rétroaction ne viendra pas de l'aidant. Parce que souvent, l'aidant... La personne accompagnée considère qu'elle est qui pour croire en elle et avoir confiance en elle. Mais va venir du terrain, de l'expérimentation. Un exemple que j'utilise souvent, c'est un schizophrène qui peut prendre l'autobus. Les parents sont paniqués à l'idée qu'ils prennent l'autobus parce qu'ils ne savent pas où ils vont le retrouver. Et l'intervenant accompagne le schizophrène, va chez lui, va chercher, et lui fait faire le trajet qu'il aura à faire. La fois d'après, il fait venir à l'arrêt d'autobus et il fait le trajet. La fois d'après, il fait venir 5-6 stations plus loin et il fait le trajet. Et à la fin, il l'attend à la fin du trajet. L'idée du schizophrène, c'est qu'il n'était pas capable de prendre l'autobus. Les faits montrent qu'il est capable. Le discours du parent qui dirait qu'il n'est pas capable de prendre l'autobus, les faits montrent qu'il est capable. L'expérimentation concrète, le rapport à l'action directe est médiateur. C'est-à-dire tout ce que vous pourrez dire à quelqu'un pour l'accompagner ne seront que des paroles, certes réconfortantes, mais qui ne changeront pas ce positionnement fondamental par rapport à l'action. Ce qui va changer le positionnement par rapport à l'action, c'est le passage à l'action. Et ce passage à l'action, il est incontournable, même s'il doit au départ commencer par des micro-pas. On appelle le pas proximal. Et l'autre condition, c'est que ce soit sur quelque chose qui est important pour lui qui a été négocié. Donc cette attestation de soi agissant suppose la possibilité concrète d'agir. Lorsque ça ne marche pas, qu'on est dans l'impuissance, perçue ou réelle. Parce qu'on peut vivre une impuissance perçue qui n'existe pas, dans les faits, mais aussi vivre une impuissance réelle qui fait que le contexte est bloqué et dans lequel on n'arrive pas à trouver une marge de manœuvre. La distinction soi-non-soi est fragilisée. Il y a des difficultés au niveau de l'identité narrative. J'ai du mal à me raconter parce que je ne parle pas de ce que j'ai fait, parce que je ne fais pas, ou je ne le sais pas, ou je ne tente pas. Donc, quand à la réponse qui je suis ou qu'est-ce que je veux, il y a une sorte de paralysie qui s'installe, c'est-à-dire que la personne se considère incapable, y compris être incapable de vouloir. Parce que vouloir, c'est se projeter, et il y a des personnes qui ne voudront même pas entendre parler de projection. Il y a un refus. L'atrophie des espaces de vie, ça j'en parlais tout à l'heure, les études de Castel ont montré que les gens qui tombent au chômage perdent du réseau, se ramassent dans le réseau des proches et se distancent du réseau des proches pour vivre tout seul ou pour créer un espace de sécurité dans lequel il n'y a pas de risque à prendre. Il y a une détérioration du rapport à l'action. Le troisième aspect, c'est que quand on a détérioré son rapport à l'action, au point où on ne croit plus qu'on est efficace ou qu'on ne croit pas qu'on peut relever un défi, on a du mal à s'attribuer le succès. Le sentiment de compétence personnelle ne se développe pas parce que, étant donné qu'on a emmagasiné l'idée qu'on était bon à rien, ou incapable de, si c'est un succès, ça devient une dissonance cognitive. Et il y a une difficulté de s'attribuer le succès, ce qui va faire que la personne va trouver d'autres explications alternatives, la chance, le hasard, l'intervenant, le contexte. Bref, quelque chose est arrivé qu'il a réussi, mais il ne considère pas qu'il a réussi lui-même. Donc, d'une certaine manière, c'est un trou sans fond. Et dans cette approche, il y a cette façon de faire qui oblige la personne à constater qu'elle a réussi, qu'elle est bonne à quelque chose, qu'elle est bonne à ce qu'elle fait. La question de l'agir, c'est la question du pouvoir faire, c'est-à-dire de prendre des risques. C'est des risques qui augmentent de façon exponentielle. C'est-à-dire que je vais prendre des risques au fur et à mesure que je vais réussir, que l'environnement va me donner l'information que j'avance sur le monde. Le non-moi m'accueille, me renvoie des interactions positives. Il y a un risque de psychologiser ou de sociologiser le problème, c'est-à-dire de considérer que la personne n'est pas capable parce qu'elle a un problème psychologique, c'est ce qu'on appelle le modèle des carences, l'hypothèse qu'il manque quelque chose à la personne pour pouvoir agir. Elle n'a pas les compétences, elle n'a pas les connaissances, elle n'a pas la maturité, elle n'a pas des ans, mais des choses que vous voulez. Il manque quelque chose. Et l'hypothèse thérapeutique habituelle, c'est on va combler ce qui manque et puis après elle sera capable. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que il y a le contexte qui joue de façon déterminante dans la capacité. Et le risque de sociologisation, c'est le risque d'oublier la personne, de faire du collectif que d'un groupe homogène. Se donner un objectif collectif, mener la démarche de pouvoir d'agir collectif, mais en ne se préoccupant pas de la manière dont chacun vit ce collectif. On arrive à des situations où des gens qui sont très engagés, très bénévoles, très volontaires, ont du succès collectivement mais ne vont pas bien personnellement. Parce que la difficulté qu'ils ont personnellement de pouvoir agir n'est pas prise en considération. C'est l'inconvénient de l'approche militante. Quand c'est la cause qui fédère et qu'on ne veut entendre parler que de la cause, ben mes problèmes à moi, mon besoin de soutien à moi, mes difficultés que je rencontre ne sont pas pris en considération. Ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi, le soi est amputé d'une part importante de ce qu'il constitue. Son sentiment de légitimité est ébranlé. Ça réfère à soi-même comme un autre. Le livre de Ricoeur qui montre que ce qu'on a besoin comme reconnaissance, c'est d'être considéré comme un autre. D'égal à égal. Je disais une recherche qui s'est faite avec ATD Carmonde récemment et l'université de Harvard. Et de toutes les variables qu'ils ont mesurées, la variable la plus déterminante, c'était la dignité. C'est-à-dire que la capacité à être reconnue par les autres, non pas comme quelqu'un de spécial qui aurait telle ou telle difficulté, non pas comme un exclu, comme si l'exclusion envahissait toute la personne et on définissait une personne comme exclue du simple fait qu'elle n'est pas inclue. Il n'y a personne qui se désignera comme exclue pour parler de sa personne. On est exclu, on est un individu avec des caractéristiques, des personnalités, etc. Et le fait d'intervenir comme sur le monde et de ne pas avoir des faits, ça met en question la reconnaissance que je m'accorde, que les autres m'accordent. Et d'une certaine manière, ça me fait être traité de manière spéciale et je ne suis plus moi-même comme un autre. Je ne suis plus intégré. Donc une bonne façon d'intégrer quelqu'un qui est en situation de marginalité, c'est de le traiter comme il est, pour ce qu'il est, avec ses ambitions, mais comme une personne fondamentalement. Il faut garder à l'esprit que les participants, les gens qui participent aux interventions, sont des personnes, et pas juste des participants. Et c'est comme personne qu'on doit les accompagner. Ce qui signifie beaucoup de choses sur le plan de la prestation professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette pathologie de l'agir? Cette destruction du rapport à l'action. Ce sentiment de regret. L'intégration dans une vie routinière où il n'y a pas de surprise et puis la nécessité d'être prévenu, préparé à l'avance pour pouvoir sortir de chez soi, rencontrer un conseiller, etc. Il faut sortir de l'impuissance. Retrouver prise sur le cours des événements. C'est vraiment ce que nos sociétés occidentales auraient de mieux à faire pour pouvoir permettre aux gens de sortir de leur souffrance. Leur permettre de retrouver prise sur le cours des événements. Les événements qui les concernent, qui sont importants pour eux. On va voir que le fait que de se centrer sur les événements qui les concernent, même en négociant, change la position du professionnel parce qu'il n'est plus prescripteur. Il n'a plus le monopole du diagnostic et du pronostic et du traitement. Il est là pour voir ce qui est possible de faire ici maintenant avec la personne sur ce qui est important pour elle. Il est là pour restaurer le mouvement, faire en sorte qu'une personne qui est bloquée sur le chemin de son évolution et qui est assise sur le bord de la route en croyant qu'il n'y aura plus de possibilité d'avancer, qu'elle se lève et qu'elle reparte, qu'elle reprenne son chemin. Et l'avantage du pouvoir d'agir, c'est que c'est un déclencheur très puissant. Lorsqu'on amène à constater la personne qu'elle a réussi, il n'y a pas d'explication alternative, quelque chose se restaure en elle. Je ne résiste pas à vous raconter une petite histoire d'une personne veuve très récemment et qui ne savait pas faire de chèque, ne savait pas gérer l'administration de la maison. Elle était incapable. Et après plusieurs mois de dérive, de dépression et de sentiments d'isolement, quelqu'un l'a invité à un groupe d'entraide. Elle s'est présentée dans un groupe d'entraide, ils étaient en réunion, et ils lui ont demandé de faire le café. Ils ne la connaissaient pas, mais elle était là, tiens, puisque tu es là, peux-tu nous faire du café? Elle a fait du café, et comme c'était agrangé avec le gars des vues, comme on dit au Québec, le café était excellent ce jour-là. Le café était très agréable, c'était un temps bien agréable, tout le monde appréciait et remerciait pour le café. Quand elle a commencé à parler de son problème, elle a répondu « je suis bonne à rien ». Et là, l'animatrice avait un boulevard en lui regardant, elle, droit dans les yeux, elle lui a répondu « tu es au moins bonne à faire du café ». Rien que cette remarque qui peut sembler anodine a un effet ébranle « je suis bon à rien, je ne suis pas capable ». Donc c'est le renouvellement du rapport à l'action, mais qui ne passe que par l'action, c'est-à-dire que c'est l'action qui est médiatrice. Vous ne pouvez pas, dans une intervention comme celle-là, enclencher un mouvement de pouvoir d'agir avec des mots. Vos mots peuvent encourager la personne à préciser ce qui est important pour elle, mais vous n'arriverez jamais à convaincre un jeune homme et un jeune homme qui voit une assistante sociale pour avoir de l'argent, parce qu'il est, court en fin de mois. Et il tombe sur une assistante sociale traditionnelle qui lui dit « je suis capable, je crois en toi, je suis sûr que tu es capable, tu vas y arriver ». Et il était presque insulté. Il a expliqué « mais c'est qui toi pour me dire ça? Tu me connais d'où? Comment tu sais que je suis fiable ?» Il y avait quelque chose de surfait dans le langage. Et il a rencontré une autre personne qui lui a dit « qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux changer ?» Tu veux 200 euros, mais ensuite, quel est le problème? Et là, ça a changé complètement de tout son positionnement. La parole, elle est utile, mais elle est toujours à l'épreuve du réel. C'est-à-dire que si une personne vous dit ça y est, j'ai réussi à m'entendre avec mon garçon, alors il doit y avoir quelque chose qui s'est passé concrètement avec le garçon. Des gestes ont été posés, des modalités ont été utilisées. Bref, on peut voir ce qui a changé. C'est observable. L'action va lui envoyer une information. J'ai plus de chicane avec mon fils depuis une semaine. Voilà un fait. J'ai résolu mes problèmes avec mon fils, je me fous de ce qu'il vit maintenant, je laisse vivre sa vie. Là, on n'est pas dans les faits, parce que dans les faits, les chicanes sont toujours fréquentes, et ça bouge toujours. Donc, il y a toujours une parole qui doit être corroborée par des faits. Normalement, une personne qui agit, qui développe son pouvoir d'agir, intervient sur le monde pour changer quelque chose. Mais ce n'est pas n'importe quelle action, c'est celle qui est ancrée sur ce qui est important ici et maintenant pour les personnes accompagnées. Alors ça, c'est une approche bien essentielle. On s'intéresse aux faits ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui est possible ici et maintenant. Pas ce qui était possible hier, pas ce qui sera possible demain, mais le pas qui peut être fait ici et maintenant. Et ce pas qui peut être fait ici maintenant, il peut être symbolique. Comme le fait d'aller se présenter au comité d'entraide, c'est un pas qui est fait. Ce qui va se passer par la suite, c'est autre chose. Mais le pas est fait. Donc c'est une action qui n'a de chance de passer, de fonctionner et de relever le pouvoir d'agir qu'à partir du moment où elle est ancrée dans la réalité de la personne. Et une chose qu'on vous a souvent posée, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez changer ? Si je vous donnais une baguette magique, là, je vous demanderais ce que vous voulez changer. Vous me donneriez toutes sortes de possibilités dans vos vies. Et on va creuser profondément le pourquoi vous voulez changer, pour voir où est-ce que ça coince. Qu'est-ce qui vous dérange ? Et c'est jamais la même chose pour personne. Chacun a une cible qui est devant ses pieds, qui l'empêche d'avancer. Tant que cette cible n'est pas atteinte, il ne bougera pas. Donc ce qui arrive souvent c'est dans cette pratique, c'est que le but consiste non pas à projeter vers l'avant, vers un objectif à atteindre, s'en servir comme une tension, mais baisser les yeux et regarder ce qui se pose problème ici maintenant, parce qu'il n'y a qu'ici maintenant qu'on peut agir. Et ça, c'est une particularité de cette approche, elle est radicalement plantée dans la verticalité, c'est-à-dire dans la possibilité d'agir ici maintenant. Une intervention, le pouvoir d'agir réussi, c'est une intervention où une personne sort en sachant ce qu'elle peut tenter, concrètement en sortant du local. C'est pas « je vais y penser », c'est « je vais tenter ça ». Et après on revient sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as tenté, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'on en comprend. Mais on a ciblé presque de façon micro le pas à faire. Un exemple que j'ai en tête, une jeune femme qui ne s'entend pas avec sa mère, elle est médecin, la jeune femme, elle a un enfant et puis deux enfants et un conjoint, et de temps en temps ils aiment aller à la campagne, elle a acheté une maison, mais c'est sa mère qui l'habite. La jeune médecin était désespérée parce qu'elle était en conflit permanent avec sa mère sur la gestion de la maison. Et elle était dans une espèce de logique, est-ce que je la place, est-ce que je la garde, etc. On jouait dans des gros enjeux. Et on est parti avec elle en disant, qu'est-ce que c'est le problème ? Alors on est droit à tout, hein. Elle ne range pas, elle ne fait pas les lits, c'est sale, il y a la poussière, la vaisselle n'est pas lavée, etc. Et on a fait le tri de tout ça, puis on a posé la question, qu'est-ce qui dans tout ça est important ? Et elle a répondu, ce qui est important, c'est qu'elle m'entende, parce que j'ai l'impression de parler dans un violon. Ça ne sert à rien que je lui parle, ça ne donne rien. Et on a développé une stratégie qui a consisté à convoquer la mère dans un café avec la fille. Et la fille a exposé ses attentes, mais a écouté ce que les attentes avaient de la personne. Qui racontait qu'elle s'est sentie dépossédée de la maison, parce que c'est pas vraiment sa maison, mais c'est sa maison, etc. Bref, le dialogue s'est repris, ils ont trouvé des arrangements, et la relation s'est restaurée. Donc, le pouvoir d'agir... On me demande souvent comment on évalue le pouvoir d'agir. Ben, je réponds tout simplement, vous partez d'une situation où la personne se sent dans l'impuissance par rapport à une cible particulière, et quand elle a fini, elle est dans une possibilité de pouvoir agir par rapport à cette impuissance. Elle n'est plus bloquée. Et c'est vraiment la philosophie de cette approche, c'est de restaurer le mouvement, débloquer les personnes pour qu'elles puissent continuer leur épanouissement, sans leur demander d'où elles viennent, sans leur demander où elles vont. Simplement débloquer ce qui est bloqué. Alors qu'est-ce que c'est ce pouvoir d'agir théoriquement ? C'est un processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément. Ça peut être ensemble, collectivement tout de suite, ou séparément d'abord et puis ensemble par la suite, à une plus grande possibilité d'agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, pouvoir agir sur ce qui est important pour soi, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s'identifient. Le fait de le faire ensemble augmente ma capacité de contribution. Je fais partie d'un groupe qui a réussi quelque chose, même si ma contribution n'était pas majeure. Je m'attribue une partie du succès de l'ensemble. Donc, d'une certaine manière, je suis porté par le groupe. Ça permet de co-réaliser des changements. Je m'entreprends des changements, mais avec d'autres. Donc, je ne me retrouve pas en situation de prendre du risque d'échec par moi-même. On est plusieurs à entreprendre le changement, donc les responsabilités vont se répartir. Je partage l'imputabilité. Alors, cette question d'attribution, c'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons aménagé le local. C'est nous qui avons fait l'exposition. C'est nous qui avons aménagé la classe. Peu importe. Ce nous collectif qui a fait permet l'attribution qui est déficitaire chez la personne en difficulté. Elle n'est pas bonne à rien, elle est capable en groupe. Donc, si elle est capable en groupe, elle est bonne à quelque chose. De renouveler son rapport à l'action, c'est-à-dire que le fait d'être en groupe, souvent on va faire de l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire on va regarder comment fait l'autre et on va apprendre de l'autre sans avoir à avoir des leçons d'apprentissage. On va découvrir des façons de faire qui vont être plus efficaces sur notre réalité et on va développer un pouvoir d'agir personnel grâce au collectif. Séparément, ça signifie de réunir à nouveau les conditions du passage à l'action. Donc qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, quelles sont les conditions que je devrais résoudre? Est-ce qu'il manque des ressources? Est-ce qu'il manque de l'argent? Est-ce qu'il manque un accès à une institution? Est-ce qu'il manque toutes sortes de choses? Je restaure mon sentiment d'efficacité personnelle, je passe à l'action, ça donne du résultat, je me sens plus efficace, donc j'ai plus envie d'essayer de passer à l'action. J'ai enfin une possibilité tangible d'influencer le cours de mon existence, je ne suis pas à subir ma réalité en me disant « j'advienne que pourra, c'est pas moi qui conduis ». Je me retrouve dans une position où j'ai mes mains sur le volant et c'est moi qui décide de la direction, en fonction du rythme. Et ensuite, je ne suis plus seulement une personne en difficulté, je suis acteur de ma réalité. Et c'est en tant qu'acteur qu'on s'adresse à moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut tenter? Il y a dans cette façon de concevoir l'intervention un renvoi à la personne accompagnée sur ce qu'elle peut tenter. Et paradoxalement, les gens ne savent pas qu'ils savent ce qu'ils peuvent tenter. C'est-à-dire que vous leur demandez, ils vont vendre « je ne sais pas », mais si vous leur faites creuser, ils vont développer une stratégie, aussi fine soit-elle. Je peux, moi qui suis agoraphobe, je peux tenter d'entrer dans un ascenseur avec une autre personne. Après, on voit ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation des sensibilisations en thérapie behaviorale. Je passe à l'action, mais une action ciblée, définie de façon très précise, très chirurgicale, qui n'a aucune chance d'échouer, de façon à ce que le succès qu'il soit obtenu engendre un autre, une tentative et un autre succès. Alors, c'est un processus qui peut se faire spontanément. Il y a un tas de gens dans la vie qui n'ont pas besoin d'être accompagnés dans leur pouvoir d'agir. Ils ont le pouvoir d'agir sans difficulté. Ils en ont même beaucoup, même intempestifs. Ceux-là n'ont pas besoin d'aide. Mais il peut être facilité par un accompagnement méthodique. C'est-à-dire qu'on peut prendre une personne ou un groupe de personnes en difficulté à obtenir quelque chose, par exemple des collations dans les écoles, l'autorisation d'avoir une boîte à lunch, ou peu importe, et faire en sorte d'avancer dans cette direction pour obtenir des changements. Je vais vous prendre un exemple. Dans un établissement de formation de professionnels du social qui a adopté l'approche du centre de pouvoir d'agir dans ses cours obligatoires. Les élèves ont très bien compris la notion de pouvoir d'agir et se sont retournés vers le directeur en lui disant une série de réclamations. Nous, comme élèves, nous désirons que les pauses soient organisées autrement, que les délais de dépôt des travaux soient organisés autrement, que les délais de correction des travaux soient organisés autrement. Bref, ils ont eu une série de revendications. le directeur les a reçus avec les profs, et chacun a parlé de ses enjeux, ce qu'il veut éviter, ce qu'il veut obtenir. Et on s'est aperçu qu'en évitant ce qu'on voulait éviter et obtenant ce qu'on voulait obtenir, on avait une zone d'action possible qui rejoignait ce que les uns et les autres voulaient éviter ou obtenir. Cette zone, ça consistait à développer une consultation hebdomadaire avec les élèves pour réguler les difficultés qui étaient posées. Et ils ont obtenu notamment la modification de la structure d'un examen qui, d'après eux, n'était pas suffisamment long, le temps pour le faire. Et donc ils ont demandé de changer la structure. Ils l'ont obtenu. Donc en fait, on peut agir ensemble et obtenir des changements. Mais ce n'est pas nous qui changeons, obtenons les changements, c'est eux. Le DPA nécessite de parvenir à une construction, une opérationnalisation poussée. On se contente souvent des étiquettes. Dépressif, angoissé, burn-out, névrosé, peu importe. Dans cette approche, l'étiquette ne sert à rien, si ce n'est à nous indiquer comment ça s'opérationnalise, c'est-à-dire comment ça se traduit concrètement, au quotidien. Quelqu'un qui vient nous dire « j'ai un problème, je suis colérique », on ne va pas le traiter comme quelqu'un de colérique. On va lui demander dans quelles circonstances il est en colère, comment il gère sa colère, quel problème ça lui pose d'être colérique, quel avantage ça lui procure d'être colérique, qu'est-ce qu'il veut changer. Et on va aller chercher des choses extrêmement pointues. J'ai un autre exemple en tête, une personne qui est venue nous voir et qui nous disait « je mange trop de sucre, il faut que je maigrisse, j'ai du diabète ». Et on l'a retourné en lui disant « quelle est la fonction du sucre dans ta vie quotidienne ?» Observe la fréquence avec laquelle tu manges du sucre, les barres tendres, les chocolats, etc. Et observe s'il y a un moment particulier où tu manges du sucre. Et pour faire une histoire courte, il a arrêté de manger du sucre après son observation, parce qu'il a découvert que son problème, ce n'était pas le manger trop de sucre, c'était une façon de compenser le fait qu'il était malheureux dans son couple. Il a divorcé. Mais au départ, c'était « je mange trop de sucre ». Donc l'opérationnalisation, elle est importante parce qu'elle permet d'aller au fond des choses. « Je suis malheureuse », l'intervenant va répondre, c'est-à-dire « malheureuse tout le temps, partout ». Ben non, il y a des endroits où je suis heureuse. Quels sont les endroits où tu es heureux, les endroits où tu es malheureuse? Et là, on découvre très rapidement où est le bobo. Une fois qu'on a opérationnalisé ça, on a quatre axes qui sont des axes d'analyse. Le but de ces quatre axes, c'est de faire le tour du propriétaire, d'une certaine manière. C'est-à-dire s'assurer qu'on a vérifié les quatre dimensions pour bien approcher la démarche. Chaque axe renvoie à un champ d'étude particulier. On peut entrer dans la démarche par n'importe quel axe. Et d'expérience, il apparaît que la démarche produit d'autant plus d'effets que les quatre points d'appui sont systématiquement utilisés. Donc, on a un outil, mais qui n'est pas une recette. Qui n'est pas une to-do list. C'est un cadre de référence qui permet de réfléchir à la situation différemment. Les quatre axes ont à voir avec la théorie de la justice. Le problème des problèmes sociaux qui sont structurels. Tous les problèmes sociaux sont structurels, mais ont des impacts individuels. Structurels au sens où c'est lié à la façon dont la société est organisée. Dans une société où les ressources sont disponibles et sont bien réparties, il y a moins de problèmes sociaux que dans les autres. On s'intéresse là à la notion de capacité de Paramahansa Sen, qui a vraiment mis en évidence qu'il ne suffisait pas d'avoir le droit d'exercer une capacité, encore fallait-il en avoir les moyens. Et donner le droit sans les moyens, c'est une forme d'aliénation. Une aliénation au sens où on attend d'une personne un résultat dont elle n'a pas l'entière maîtrise. Donc elle doit produire un changement alors qu'elle n'a pas l'entière maîtrise. L'autre axe, c'est la participation. Ça consiste à se méfier de la notion de participation de façon à ce qu'on n'utilise pas des participants tampons, là, des gens qui sont là avec l'étiquette de participants mais qui ne participent pas pantoute, ils sont juste là pour dire que sur le siège social, au conseil d'administration, il y a un participant. Les dossiers lui passent par-dessus la tête, il n'est pas préparé. Il y a une étude en Angleterre qui a montré qu'on a fait ça pour un foyer de jeunes délinquants. Et les parents arrivaient avec au conseil d'administration avec des piles de dossiers énormes. Ils étaient censés avoir lieu en deux jours. dans un langage complètement technique. Donc on les mettait dans l'impuissance. Donc il y a participation et participation. Participer, oui, mais pourquoi faire ? Pour développer son pouvoir d'agir, individuel et collectif. La théorie du changement maintenant. On utilise une approche pragmatique, le pragmatisme américain, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est vrai, c'est ce qui est viable. C'est-à-dire que la solution, elle est toujours viable, mais elle n'est pas vraie, au sens où il n'y a pas d'absolu. On renonce au bien, au bonheur, au succès, défini une fois pour toutes. On construit le bien, le bonheur et le succès progressivement, de manière viable. On part avec la situation telle qu'elle est et on l'améliore de manière viable. Ce qui avance, qu'il n'y a plus personne qui a tort ou a raison. C'est l'espace du possible qui devient le lieu de travail. Qu'est-ce qui est possible ? La dernière, c'est les théories cognitives de l'énactisme. Varela, un scientifique qui est décédé il y a quelques années, avait développé une théorie de l'énactisme qui voulait que ce n'est pas le cerveau qui déterminait les comportements, ce n'est pas les comportements qui déterminent le cerveau, c'est un échange mutuel, et que le comportement modifie les chaînes du cerveau. Donc ça soulève toute la question de la biologie du cerveau, qui s'avère être un instrument très, très adaptable, et qui va développer des fonctions nouvelles en fonction du comportement des personnes. Donc s'il y a un lien entre comportement et le cerveau, dans les deux sens, il faut avancer tête, cœur, corps. La tête, le cœur et le corps. Les émotions et le corps. Donc quand on appréhende une personne, on l'appréhende toujours dans sa globalité. On a ramené ça à quatre questions qui sont intéressantes à poser pour n'importe quelle analyse, qui vous ramèneront dans les quatre axes à chaque fois. Qui veut quoi, pour qui et pourquoi ? Qui veut changer quoi, pour qui et pourquoi ? Et là, vous apercevoir que très souvent, quand il y a un désir de changement, il est fait par un prescripteur, quelqu'un qui suit un texte de loi ou une nouvelle procédure ou une nouvelle façon de faire, qui décide que le changement soit fait. Et là, on va s'intéresser à son enjeu. Qu'est-ce qu'il veut éviter ? Qu'est-ce qu'il veut obtenir en imposant ce changement ? Qui doit changer ? C'est aussi un prescripteur qui le décide souvent. Les chômeurs doivent être plus actifs dans la recherche d'emploi. Je décide que c'est un changement, je fais un amendement à la loi pour les forcer à chercher un emploi. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils changent ? Quel problème ça pose ? Et là, on tombe dans les idéologies politiques. Qui veut quoi, pourquoi et pour qui, pour qui et pourquoi ? Si on pose la question de manière systématique, prenez n'importe quelle pensée pendant deux minutes à n'importe quelle situation que vous voudriez changer. Et vous allez vous apercevoir qu'en posant ces questions-là, vous dégagez des enjeux. La deuxième question, qui est fondamentale aussi dans cette approche, c'est qu'on ne fait aucune intervention, mais vraiment aucune, sans passer par ce qu'en pensent les personnes concernées. C'est-à-dire qu'on aura beau faire un programme très, très intéressant, très, très soutenant, très généreux, si les personnes concernées n'ont pas donné leur avis sur la pertinence du programme, on n'est pas dans du développement du pouvoir d'agir. Ce n'est pas non plus le piège de la parole d'or, ce n'est pas que ce que disent les personnes concernées uniquement qui est valable, mais il y a un espace de négociation dans lequel elle est inclue. Alors qu'est-ce qu'on appelle une personne concernée ? C'est une personne qui vit avec les conséquences des décisions qui sont prises. Souvent autour de la table, il y a un tas d'acteurs, des acteurs impliqués, qui ont pour tâche de prendre des décisions, mais quand ils rentrent chez eux, la décision qu'ils ont prise n'a pas d'influence sur leur quotidien. Alors que les personnes concernées doivent composer avec les décisions qui ont été prises. Donc elles ont un point de vue particulier qui est incontournable, qui est absolument impossible à évacuer. Après, la question des contextes d'application. Je vous disais, on intervient dans la verticalité, c'est-à-dire on est dans l'ici maintenant. Donc on va s'interroger à ce qui est possible ici maintenant. Pas quand la situation aura changé, pas quand on aura plus de ressources, pas quand les conditions de bien-être sont réunies, mais vraiment, la situation telle qu'elle est, sans qu'on n'en change rien, qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qu'on peut attraper ? Qu'est-ce qu'on peut initier comme changement ? Qu'il soit significatif pour la personne. Quel est le premier pas proximal ? Le pas proximal étant le plus grand pas possible, c'est pas la taille du pas qui compte, c'est le fait de faire le mouvement, de tenter un pas. Et une fois qu'on a développé une cible de changement, on la met en place, et il y a un quatrième axe qui est fondamental aussi. Évidemment, tout est fondamental. Qu'est-ce qui a été tenté et quel enseignement on en tire? C'est-à-dire, la différence entre un vécu et une expérience, c'est que le vécu, on le vit et puis on n'y revient pas forcément. L'expérience nous ramène le vécu en nous disant quelles leçons tu as appris. Qu'est-ce que ça t'enseigne sur ton pouvoir d'agir, sur ta capacité, sur ton rapport aux autres? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu as en goût de tenter? Qu'est-ce que tu veux changer? Et là, on revient au début. Le DPA des enfants. Les principaux enjeux développementaux du DPA des enfants, c'est l'attestation de soi. Donc je suis capable, c'est la colonne vertébrale sur laquelle ils grandissent. J'ai un petit neveu qui, par exemple, a des grosses difficultés à échouer au jeu quand il ne gagne pas. Et il traduit toujours cette frustration par « je ne suis pas capable ». Et donc je ne veux plus essayer. C'est exactement ce type d'échec vécu qui, s'il s'accumule, qui se développe dans un contexte où il y a des difficultés par ailleurs et où l'enfant est un peu laissé à lui-même, ça l'empêche d'avancer. Donc, l'attestation de soi, c'est l'importance de l'attribution de la narration identitaire. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant est capable de s'attribuer des succès? Est-ce qu'il reconnaît que c'est lui qui a été capable? Et à partir de ce moment-là, on peut bâtir là-dessus. Qui attend quoi des enfants? On parle beaucoup du pouvoir d'agir des enfants, mais on a tendance à utiliser une logique de devoir d'agir. C'est-à-dire de décider ce dont les enfants ont besoin. Prendre une initiative, d'ouvrir un club, de faire des choix. Qu'en pensent les enfants? Qui attend quoi des enfants? Qu'est-ce qu'on veut des enfants? Qu'ils soient moins brillants, qu'ils soient moins agités, qu'ils soient plus épanouis? Qui attend quoi? Ensuite, quels mots utilisent les enfants pour décrire leur situation? Les enfants ne font pas des discours, mais ils utilisent des mots. Et les mots mis dans un nuage de mots vous donnent une indication de ce qu'ils en pensent, de ce qui est important pour eux. Donc, comment aider l'enfant? En écoutant ces mots, les mots qu'il utilise. Je pensais à la petite fille tout à l'heure dans la question du divorce. Elle a trouvé ces mots, mais elle a cherché ces mots pour longtemps. Elle voulait trouver les bons mots. Et ce qui lui est revenu comme indicateur, c'est « moi, je ne suis pas un parent. Je suis une petite fille. » Ces mots-là sont simples, ce n'est pas un discours, mais sont percutants. Donc, compte tenu de ce que dit l'enfant, étant donné le contexte, quelles sont les actions à leur portée? Quelles sont les actions qu'ils peuvent entreprendre par eux-mêmes pour réussir à produire le changement qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils peuvent tenter dans le cadre de leur développement, de leurs possibilités? Et toujours la question de la démarche d'action conscientisante, qu'est-ce que les enfants ont appris? On ne fait pas souvent ce retour sur ce que les enfants ont appris comme enseignement. Et lorsqu'on fait une intervention auprès des enfants ou des jeunes adolescents, les amener à réfléchir sur les leçons qu'ils tirent de la situation est très efficace, parce que ça leur permet de se construire une image de soi et un sentiment de compétence personnelle. Le DBA est une approche qui s'est construite avec les années. On n'a rien inventé, on a amalgamé, modélisé, et on a mis en évidence qu'il y a une possibilité de renouer le rapport à l'action et de permettre à des gens qui sont bloqués sur la route de se relever et de reprendre le chemin de l'épanouissement. Le DPA, dans ce qui est appliqué, est un facteur d'inclusion, puisqu'on inclut, un facteur d'apprentissage, je vais parler de l'apprentissage vicariant, un outil de gestion des conflits, parce qu'il sert également à entendre l'autre, qu'est-ce que l'autre veut, quels sont ses enjeux, et un stimulant à la créativité, puisque à partir du moment où je peux tenter quelque chose, eh bien je peux ouvrir mes ailes et m'épanouir. Les pièges. Attention à ne pas parler au nom des enfants. Une des façons dont on évite ce piège, c'est qu'on ne parle pas des besoins des enfants. On parle des demandes des enfants. De manière à ne pas attribuer des besoins unilatéralement. Ça peut être d'un besoin la demande, mais juste simplement considérer la demande comme une demande. Parce que pour une demande, il faut qu'il y ait un demandeur. Donc ça nous oblige à rentrer en contact avec la personne accompagnée et savoir ce qu'elle demande, quitte à négocier. Mais on n'utilise pas la notion de besoin. Avec toutes les réunions que vous assistez, auxquelles vous déterminez les besoins des élèves, des étudiants, des personnes que vous accompagnez, posez-vous la question, mais quelles sont leurs demandes? Et dans les pratiques traditionnelles, cette question-là n'est pas posée. Elle est supposée être évidente, et c'est les professionnels qui déterminent les besoins. Ça ne se prescrit pas le pouvoir d'agir. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « tu vas développer le pouvoir d'agir ». La seule chose qu'on peut faire, c'est créer les conditions pour qu'il se développe. Comme un jardinier crée les conditions pour que les légumes poussent. Ce n'est pas lui qui fait pousser les carottes, même en tirant dessus. Donc il y a dans l'intervention du DPA quelque chose de l'ordre du jardinier qui entretient son jardin pour créer les conditions pour que les légumes poussent. C'est la même chose avec l'intervenant. Il crée les conditions pour que les jeunes développent leur pouvoir d'agir. Ne pas confondre avec le devoir d'agir. Le devoir d'agir, c'est lorsqu'on décide que les gens ont besoin de ceci ou besoin de cela et qu'on en fait une injonction. Vous n'êtes pas assez motivé. Vous devriez développer votre pouvoir d'agir à la motivation. Vous n'êtes pas assez assidu. Vous avez besoin d'un soutien médical. Bref, quand on donne une prescription, quand on donne un devoir d'agir, on n'est pas dans le pouvoir d'agir. Et le plus important pour l'enfant, c'est le pouvoir de se nommer, c'est-à-dire que ces mots soient pris au sérieux pour ce qu'ils sont, des mots qui quelquefois sont structurés dans une pensée, quelquefois pas, mais qui permettent à l'enfant de se faire entendre. Je vous remercie.